Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mboujimayi, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen en RDC. Les services publics ne sont pas épargnés par les violences basées sur les genres dans les entreprises, les établissements, les cabinets ministériels et politiques. Certaines femmes font l'objet de violences et autres traitements dégradants face à ces situations. Dans le cadre de ces jours d'activisme et de lutte contre toute forme de violence faite aux femmes, la Confédération syndicale du Congo organise une matinée d'échange et des plaidoyers sous les parrainages du directeur général adjoint du Fonds national de l'habitat. S'il est vrai que le gouvernement congolais et ses partenaires tant nationaux qu'internationaux sont pleinement engagés dans la lutte contre les violences faites à la femme, il y reste encore beaucoup à faire pour consolider les efforts existants, particulièrement en milieu professionnel. Il faut davantage offrir aux femmes un cadre de travail sans violence et s'occuper de la prise en charge des victimes en vue de permettre aux femmes de participer activement au développement du pays et d'y déployer leurs potentialités. Que pensez-vous des efforts consentis en RDC et par le gouvernement congolais et ses partenaires dans la lutte contre les violences basées sur les genres en général et particulièrement dans les services publics? Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Vous pouvez aussi intervenir en direct en composant les 081 890 63 30 ou les 081 890 49 69. Dieudonné Nyangasa est à la mise en œuvre de Blaise Chindana sur la réalisation et la coordination de ce magazine. Au micro, c'est Marcel Ngombombala. À toutes et à tous. Excellente condition d'écoute de ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs.
L'information se retrouve aussi tout le jour sur radiookapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radiookapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser. Parole aux auditeurs.
Encore une fois, bienvenue dans ce nouveau numéro des Paroles aux auditeurs et merci de votre fidélité à Radio Capi, la fréquence de la paix. En RDC, nous l'avons dit, les services publics ne sont pas épargnés par les violences basées sur les genres dans les entreprises, les établissements, les cabinets ministériels, les politiques. Certaines femmes font l'objet des violences et autres traitements dégradants et face à cette situation, dans le cadre de ces jours d'activisme et de lutte contre toute forme de violence faite aux femmes, la Confédération syndicale du Congo organise une matinée d'échanger des plaidoyers sous les parrainages du directeur général adjoint du Fonds national de l'habitat. S'il est vrai que le gouvernement congolais et ses partenaires tant nationaux qu'internationaux sont pleinement engagés dans la lutte contre les violences faites à la femme, mais il reste encore beaucoup à faire pour consolider les efforts existants, particulièrement en milieu professionnel. Il faut davantage offrir aux femmes un cadre de travail sans violence et s'occuper de la prise en charge des victimes en vue de permettre aux femmes de participer activement au développement du pays et de déployer leur potentiel. Vous avez été nombreux à réagir par rapport à ces sujets sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Et comme chaque fois, vous êtes également aussi inscrit pour intervenir en direct. Merci à vous. Si tout va bien, pour commenter ces sujets, nous allons accueillir dans ces studios Madame Pascaline Zamunda, directeur général adjoint du Fonds national de l'habitat, qui est justement la marraine, s'il faut le dire, de cette matinée qui va être organisée par la Confédération syndicale du Congo, qui va organiser donc cette matinée d'échanger des plaidoyers sous les parrainages du directeur général adjoint du Fonds national de l'habitat, sera notre invité. Nous espérons qu'elle va nous rejoindre d'un moment à l'autre. En attendant d'avoir notre invité, nous avons déjà des auditeurs qui aimeraient bien réagir. Nous avons Franck qui nous appelle depuis Vienne, Roger, Marcel qui est en ligne depuis Kinshasa, mais aussi Maître Patrick Odia qui est à Lubumbashi. On y va avec Franck qui nous appelle depuis Vienne. Bonjour Franck.
Bonjour à vous, notre ami Marcel. Bonjour à vous tous au studio, à tous les fidèles auditeurs de la radio Capi et aussi à l'invité du jour, notre maman, Madame Pascaline Zamunda, dont vous avez cité le nom.
Voilà, Franck, on ouvre ce bal d'échange citoyen par rapport à ces sujets. Nous l'avons dit dans le cadre de ces jours d'activisme de lutte contre toute forme de violence faite aux femmes, la Confédération syndicale du Congo organise une matinée d'échanger des plaidoyers sous les parrainages du directeur général adjoint du Fonds national de l'habitat. On s'est convient qu'il y a 10 efforts consentis par le gouvernement congolais et ses partenaires tant nationaux qu'internationaux pour, en tout cas, dans le cadre de la lutte contre toutes ces violences faites à la femme et particulièrement en milieu professionnel. Mais il faudra davantage offrir aux femmes un cadre de travail sans violence et s'occuper de la prise en charge des victimes en vue de permettre aux femmes de participer activement au développement du pays et de déployer leur potentialité. Alors vous, qu'est-ce que vous pensez des efforts qui sont consentis dans ces secteurs de lutte contre toute forme de violence faite à la femme?
Oui, merci beaucoup. S'il faut réagir de manière synthétique par rapport à cette description telle que vous l'avez faite et au regard de ce qui se vit, il y a d'abord lieu de reconnaître qu'il y a des avancées qui se font déjà voir et aussi prendre acte de certains aspects déficitaires par rapport à cette lutte de violence faite à toutes les femmes qui sont nos mamans, nos sœurs, nos camarades, nos enfants, nos cousines, nos nièces et aussi nos amis et ainsi de suite. Puis, il faut continuer à mener une telle lutte car dans la plupart des cas, on cesse de la prendre au prix de quels gymnastiques, au prix de quels sacrifices certaines femmes arrivent à travailler dans beaucoup de circuits. Et l'on doit aussi chaque fois encourager toutes nos sœurs qui ne cessent de se battre pour émerger positivement dans divers domaines de vie, en rappelant également que certaines parmi elles ne cessent de confondre que cette lutte pour le traitement égal ne doit vraiment pas signifier là de chercher à tout faire la méritocratie. Donc, pour autant que nous nous battons que le traitement entre les hommes et les femmes puisse être égal, pour autant que nous devons aussi nous battre pour que la méritocratie soit de mise, pour que qu'on dise pas bon, on doit seulement faire passer les femmes parce que elles sont souvent marginalisées et ainsi de suite. Et je trouve personnellement que on avance déjà, mais il faut aussi qu'il y ait des efforts du côté de nos sœurs, de nos mamans, parce que dans la plupart des cas, parfois, c'est elles-mêmes qui ouvrent aussi des brèches pour se faire exploiter. Mais ce sont parfois des cas exceptionnels, mais jusque-là, les avancées à constater sont déjà significatives.
Mais Franck, c'est qu'on dit souvent le problème avec l'homme. L'homme pense toujours qu'il a un certain ascendant sur la femme, particulièrement en milieu professionnel. L'homme pense que c'est l'homme qui doit être le patron, c'est l'homme qui doit être en tout cas aux commandes, et la femme est là pour subir. Et deux fois, cette forme d'ascendance de l'homme sur la femme fait que des fois également, certaines femmes se laissent aller.
Non, oui, je crois que vous avez dit, mais moi personnellement, je ne pense pas qu'il n'y a que ça. Ça dépend d'abord de la conception de cet homme, de l'image que lui-même s'est fait sur sa vie et de la vie des autres, de la qualité de profil qui est sien et par rapport aux autres. Comment un homme peut toujours penser avoir de l'ascendance sur la femme s'ils ont par exemple les mêmes titres académiques, s'ils peuvent compétir ensemble? C'est comme ça que j'ai dit, de part et d'autre, il y a encore des choses à revoir. L'homme doit arriver aussi à comprendre que l'homme et la femme, ils sont tous des êtres égaux. Ils peuvent compétir à des niveaux égaux. Donc, celui qui est meilleur peut toujours emporter. Et la femme aussi doit savoir que pour autant qu'elle a déjà un parcours académique, un parcours intellectuel respectueux, elle peut se trouver partout où il y a les hommes. C'est question maintenant de se mettre à sa place, de savoir d'abord ce qu'on est. Puis, je trouve personnellement que c'est aussi un problème d'éducation. Donc, dans la plupart des cas, il y a des hommes qui pensent que, bon, à partir de son éducation de base, par exemple à la maison, on lui faisait croire qu'il a toujours de l'ascendance sur ses sœurs, c'est lui qui sera l'oncle, c'est lui qui sera le tonton. Alors, il pense que partout, c'est ça. Mais moi, je crois que nous sommes au 21e siècle, on doit arriver à comprendre ce que nous sommes en train de vivre. Je ne vois pas, par exemple, un homme qui a une licence en droit et une femme qui a une licence en droit. Les deux ont prêté serment comme avocat. Ils prêtent dans des barreaux. En quoi l'on peut se dire supérieur à l'autre? Ça dépend maintenant de la conception et c'est là où on voit aussi les fonds de la maturité humaine de tel et de tel autre. Mais je crois que nous devons aussi encourager nos sœurs parce qu'il y en a qui peuvent aussi avoir des potentialités, des capacités, mais qui n'arrivent pas à les utiliser convenablement. Donc moi, je trouve que nous devons rappeler à ce que nous sachions que nous sommes tous des êtres égaux. Et comme être égaux, pour autant que moi j'aime bien être respecté par les femmes, pour autant que je dois aussi me battre pour respecter toutes les femmes, quel que soit le profil intellectuel, quel que soit le profil académique, mais d'abord les respecter comme des êtres égaux aux hommes.
Mais qu'est-ce que vous pensez, Franck, de ceux qui estiment que des fois ce sont les femmes elles-mêmes qui sont à la base de toutes ces violences?
Oui, mais je venais de le dire, j'ai dit parfois ce sont nos sœurs qui ouvrent des brèches. Quand par exemple la femme sait que elle ne peut pas arriver là, alors elle pense que pour y accéder, elle doit monnayer avec. C'est comme ça que j'ai dit, nos sœurs, nos amis qui sont nos mamans, nos femmes, nos tantines, ne doivent pas se sous-estimer. Quand vous avez un parcours respectueux, affirmez-vous comme les hommes. C'est comme ça que j'ai dit quelque part, on ne doit pas chercher à étouffer l'élan de la méritocratie, parce que pour qu'une société se développe, ça doit se développer sur base de mérite. Il faut que les gens s'affirment de part et d'autre.
Voilà, merci. Merci Franck d'avoir appelé depuis bien. Je pense que vous avez dit l'essentiel. Aujourd'hui, on a ouvert le bal de cet échange avec vous. Merci Franck d'avoir réagi depuis bien en Autriche. Roger Marcel, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Roger Marcel.
Bonjour Monsieur Marcel, bonjour à notre invité et bonjour à tous les amis qui viennent de la radio de la paix.
Vous avez la parole.
Monsieur Marcel, vous savez que dans notre pays, malgré tous les efforts que l'État congolais fait de fournir, je pense que ces efforts-là sont toujours anéantis. Regardez aujourd'hui au niveau du Parlement, il y a eu vraiment des lois qui ont été votées en faveur de la femme. Ou si on regarde aujourd'hui avec les élections, il y a eu la loi électorale dans son article 13 qui supprime tous les partis politiques qui pouvaient aligner quand même au moyennant 50%, leur quotient pouvait être diminué. Mais quand on regarde aujourd'hui avec les partis politiques, ils ne sont pas respectés par cette mesure-là. Je pense que c'est un bon moment aussi de sensibiliser aussi nos femmes. Que la femme aussi puisse se connaître.
Parlons davantage, en tout cas des violences faites à la femme, parce que nous l'avons dit, même le service public ne sont pas épargnés, qu'il s'assoit dans les entreprises, dans les établissements, dans les cabinets ministériels et politiques. Il y a en tout cas des femmes qui témoignent avoir été victimes de violences. Ça peut être soit de violences sexuelles ou alors de traitements dégradants. Et vous pensez qu'est-ce qu'il faut faire davantage de manière à ce que, en tout cas, peut-être d'autres pistes des solutions de façon que, en tout cas, c'est toutes ces violences, on puisse mettre fin à toute forme de violence basée sur le genre.
Je pense que c'est vrai que c'est partout. Si vous allez même dans les universités aujourd'hui, nos filles sont aussi victimes. Passer une promotion, il y a toujours des assistants, des professeurs qui dérangent toujours nos filles. Mais les grands problèmes qui restent, il faut toujours dénoncer. Si vous, les mamans ou les filles, vous êtes victimes de ça, et lorsque vous ne dénoncez pas, il n'y a personne qui peut parler à votre place. Si quand même quelque chose qui arrive comme ça, et puis vous accusez un peu la personne qui fait ça, la personne sera jugée et condamnée. Je pense que nos femmes méritent aussi d'être mieux, parce que quand on regarde aujourd'hui, même dans le gouvernement, il y a aussi des femmes qui sont aussi mieux, qui méritent un peu du respect. Mais si ce genre d'histoire, ça continue toujours à se faire, il faut toujours chercher un peu ces hommes-là qui viennent là pour être sanctionnés prochainement, ce genre des actes qui ne s'appliquent pas.
Donc vous encouragez les femmes à dénoncer chaque fois qu'il y a des actes de ces genres, c'est-à-dire des violences sur leur personne, faut tout le temps dénoncer, c'est pour vous, c'est aussi une façon de lutter contre toutes ces violences, et d'ailleurs on se rappelle que c'est une stratégie de lutte contre les violences faites à la femme, de toujours dénoncer chaque fois là du cas de violence. Merci. Roger Marcel d'avoir appelé depuis Kinshasa. Marie-Paul Awa, vous êtes à Kisangani. Bonjour Marie-Paul.
Oui, bonjour monsieur le journaliste et bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
On vous écoute.
Oui, monsieur le journaliste, la République démocratique du Congo, c'était un État qui se veut démocratique. C'était un État qui se veut un État de droit. Et dans un pareil État, l'impératif c'est qu'il y ait le respect des textes et le respect bien évidemment des fondamentaux des lois et ainsi de suite.
Marie-Paul, vous êtes toujours en ligne? Donc Marie-Paul n'est plus en ligne. Je pense bien que Maître Patrick Odia est en ligne depuis Lubumbashi. Maître Patrick, vous êtes en ligne depuis Lubumbashi?
Oui, bonjour Marcel, bonjour à tous les auditeurs de la radio Katou.
Voilà, vous avez la parole.
Merci beaucoup Marcel pour m'avoir associé encore une fois depuis à ces débats citoyens, républicains également. Je rappelle ici que parmi les objectifs, les 16 objectifs des Nations Unies, il y a l'un des objectifs qui a été adopté par tous les pays membres, notamment la RDC, qui favorisait l'égalité des sexes. Et l'égalité des sexes voudrait tout simplement, si je voudrais prendre in extenso un peu la stipulation de cet article, il stipule que l'égalité des sexes n'est pas seulement un droit fondamental de la personne, mais aussi un fondement nécessaire pour l'instauration d'un monde pacifique, prospère et durable. Ça, c'est l'un des objectifs qui s'était assigné des Nations Unies, notamment la RDC également. Alors, beaucoup de gens ont parlé des efforts consentis par le gouvernement jusqu'à ce que notre président a été, c'est pas moi, acclamé par les uns et les autres parce qu'il est le champion en masculinité ou en féminité, quelque chose pareil. C'est bien beau, le gouvernement essaie de fournir les efforts. Mais il n'y a pas de mécanisme de sanction. Rappelez-vous, dans les services publics aujourd'hui, lorsque une demoiselle, une dame qui est mariée, qui est célibataire, qui vient de finir des études, mais pour accéder à un certain poste, pour accéder à une telle fonction, pour avoir des affectations, si pas des responsabilités au sein d'une entreprise, l'on néglige à ce qu'il y ait échange de sexe, échange de promotion, échange, je ne sais pas moi, mission de service et autres. Nous sommes dans les différents services, il faut voir comment ces femmes ou ces filles essaient de s'étonner parfois parce qu'elles n'ont pas où aller et non pas quoi faire également dans un pays où le taux de la pauvreté également est bizarre.
Mais Marie-Paul, plutôt, maître Parti, vous avez suivi, il y a Franck qui a dit que c'est pas une raison que ces femmes également se laissent faire ou bien qu'elles se laissent violenter deux fois. Il faut absolument réagir et dénoncer.
Oui, là où je parle en tant que juriste assistant ou conseiller suivre de près les genres de dossiers également. Lorsqu'une femme, on dit, Marie-Paul l'a dit, ou Vienne l'a dit, qu'il faut dénoncer, oui. Mais lorsqu'on va dénoncer, quelle est la suite ou la réaction de l'employeur après? Il va devoir la chasser du boulot, la renvoyer du boulot, et quelle sera la suite? Quels sont les mécanismes de sanctions mis en place par les gouvernements pour assurer une protection, si pas une sécurité sociale, après qu'elle ait dénoncé également. C'est là où peut-être l'une des questions qui doit faire aussi l'objet d'un débat au futur. Quels sont les mécanismes pour garantir la sécurité professionnelle après avoir dénoncé ces bombes, bien beau. Mais je reconnais également ici dans le milieu des universitaires, dans le milieu partout, où les femmes elles-mêmes proposent également, Marcel. Elle propose également parce que, n'ayant pas parfois, je ne dis pas toutes les femmes, je m'excuse, mais certaines n'ont pas les compétences nécessaires pour accéder à un tel poste ou à une telle fonction, alors elle propose les sexes par l'habillement, par la séduction, avec tous les mécanismes nécessaires pour essayer d'aboutir et d'affaiblir les chefs, et les chefs vont tomber et promettre également. Mais ça, ce sont des cas exceptionnels, mais ici nous pouvons demander au gouvernement de réfléchir en termes des mécanismes juridictionnels, des mécanismes, des sanctions, des mesures correctives. Lorsque la femme va dénoncer, nous l'avons dit, il faut dénoncer, oui, mais après avoir dénoncé, quelle est la garantie sécuritaire?
Donc vous insistez, maître Patrick, sur cet aspect très important. Au-delà de la dénonciation, il faut absolument que les auteurs, une fois que c'est avéré qu'ils ont été auteurs de violences sur la femme, il faut absolument qu'il y ait des sanctions. Lorsqu'il n'y a pas des sanctions, c'est comme si on encourageait ces auteurs à continuer à poser de tels actes.
Certainement. Dès lors que nous savons que les inspecteurs du travail censés accompagner de tels cas, mais ne font pas leur travail également. Non, d'une part, le gouvernement a une responsabilité de pouvoir promouvoir l'égalité des sexes et autres, mais d'autre part également, il y a beaucoup d'éléments à prendre qui entrent en ligne de compte pour assurer ou pour arriver à atteindre l'égalité dont nous sommes en train de crier aujourd'hui, de demander aujourd'hui. Donc, encourager, organiser des conférences, c'est bien beau, mais aussi renforcer les mesures sécuritaires juridictionnelles, ça serait également un grand atout pour sanctionner quiconque s'évertuerait à proposer des sexes, à demander les sexes aux femmes pour une quelconque
promotion ou un poste au travail, je pense que nous pouvons le faire. Je suis avocat, j'essaye d'accompagner certaines personnes également, dont notamment des femmes, secret professionnel m'oblige, mais il faut voir que les femmes ont même une peur de dénoncer cela. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une garantie juridictionnelle. Il n'y a pas une garantie. Il n'y a pas.
D'accord. Merci, Maître Patrick Odia, d'avoir appelé depuis Lubumbashi. On va aller à Kananga pour accorder la parole à Honoré Djoukaï. Bonjour, Honoré.
Bonjour, cher monsieur le journaliste. C'est monsieur Honoré, enfant Anaï Kalamba, depuis la ville de Kananga, province du Kasaï Central. Je venais à peine de suivre mes co-débatteurs. Donc, ce que moi, je vais dire... d'une manière brève à ce sujet, c'est un sujet pertinent qui nous rappelle tous à la conscience, partout là nous trouverons, que ce soit dans des institutions publiques, dans des institutions de l'État, comment on peut éviter les violences sexuelles et autres. Donc d'une manière brève, c'est que moi je peux dire par rapport à ce sujet, c'est par rapport au manque de leadership. Vous voyez que quand vous trouvez un urgent quelque part, vous devez d'abord signer vos propres intérêts, d'abord savoir de quoi je suis en train de faire et pourquoi on m'a donné cette responsabilité. Ce n'était pas pour faire un bobo, pour faire faire de bêtises, mais sinon c'est pour servir l'État congolais dans toutes les dimensions, dans tout ce qu'il faut faire pour l'intérêt collectif de la population, comme on le dit que le peuple, les chefs c'est le peuple d'abord. Bon, c'est ça, c'est que moi je peux dire d'une manière brève à ce sujet.
Vous avez suivi, il y a Maître Patrick Odia qui a insisté parmi les pistes de solutions. C'est vrai, on encourage les femmes à dénoncer, mais il faut également sécuriser ces femmes qui dénoncent et puis, en tout cas, punir et sanctionner les auteurs de ces actes.
Oui, mais c'est tout à fait, on devrait procéder à sanctionner de tels pareils actes. Parce que quand vous faites quelque chose, et d'ailleurs vous-même vous êtes conscient de ce que vous avez fait, donc on ne peut jamais vous pardonner. Donc si l'État congolais est souple, il peut sanctionner tel genre de gens, parce que ça va donner, ça fait pourrir notre pays. Donc notre Congo, c'est un Congo plus beau que Béléla. Donc
nous devons merci.
Changer l'État et notre pays. Pour devenir à un Congo meilleur, pour prospère.
Merci Honoré Djoukaï depuis Kananga. Obed nous appelle de Kinshasa, j'imagine. Obed, vous êtes en ligne depuis Kinshasa. Bonjour Obed. Obed, voilà, vous êtes en ligne. Allez-y. Oui, voilà, vous avez la parole. Allez-y Obed, vous avez la parole.
Oui, exactement. Charles Marcel, vous savez que si j'étais intervenu. Dans un moment, je dirais un timing parfait, hein, parce que vous savez, tout ce qu'on est entré, justement, de voir au sein de nos administrations, au sein de nos services publics, c'est vraiment une aberration. On est dans la dépravation totale des bonnes mères. Alors, vous savez, notre arsenal juridique congolais a prévu justement des actions face à ce genre à ces genres de choses et qui n'honorent même pas notre identité.
Mais alors, Obed, qu'est-ce que vous... Obed, s'il vous plaît, si on peut s'écouter. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez des efforts déjà consentis par le gouvernement congolais et ses partenaires dans la lutte contre les violences faites à la femme et quelles sont les pistes de solutions pour consolider davantage ces efforts pour que, en tout cas, que les femmes travaillent dans un milieu professionnel sans violence. Il me semble que
Allô, cher Marcel.
Bon, décidément, il y a des problèmes avec votre ligne. Désolé, Obed, on pourra revenir en tout cas à ce qui vous concerne dans nos prochaines émissions. Il est temps pour moi de souhaiter la bienvenue à ceux qui viennent de se joindre à nous sur la fréquence de la PC, votre magazine des champs citoyens, parole aux auditeurs. Nous parlons aujourd'hui de violences faites à la femme et face à cette situation dans le cadre de ces jours d'activisme et de lutte contre toute forme de violences faites aux femmes. La Confédération syndicale du Congo organise une matinée d'échange et de plaidoyer sous les parrainages du directeur général adjoint du Fonds national de l'habitat. Si vous êtes intéressé, vous voulez intervenir, je rappelle le numéro des contacts, c'est le 081 890 6030 ou le 081 890 49 69.
parole aux auditeurs.
Voilà, je disais dans l'introduction de ce magazine, en RDC, les services publics ne sont pas épargnés par les violences basées sur les genres dans les entreprises, les établissements, les cabinets ministériels, politiques. Certaines femmes font l'objet des violences et autres traitements dégradants. Face à cette situation, dans le cadre de ces jours d'activisme et de lutte contre toute forme de violences faites aux femmes, la Confédération syndicale du Congo organise matinée d'échanges et de plaidoyers sous les parrainages du directeur général adjoint du Fonds national de l'habitat. Nous avons le plaisir d'accueillir dans ces studios Madame Pascaline Zamunda, directeur général du Fonds national de l'habitat qui vient de nous rejoindre. Bonjour madame.
Bonjour monsieur Marcel. Voilà. Et bonjour à tous les auditeurs.
Voilà, merci d'être là. D'abord cette première question, pourquoi parrainer cette matinée de plaidoyer, d'échange qu'organise la Confédération syndicale du Congo?
Oui, merci beaucoup. Je voudrais saisir l'opportunité d'abord de mentionner, parce que vous veniez de dire tout à l'heure les avancées que la RDC a enregistrées. Ici, je veux dire d'abord merci et coup de chapeau au chef de l'État par rapport à son ouverture d'esprit et par rapport à ce qu'il exprime ouvertement, qu'il est favorable à l'épanouissement de la femme. Il a même à le dire dans ses propos qu'il souhaiterait même être remplacé par une femme. Alors, le pourquoi de ça, c'est dire que nous voulons, entre l'objectif qui est de voir les femmes travailler, accéder aux opportunités comme les hommes, et les résultats de les voir donner les meilleurs d'elles-mêmes, de les voir contribuer de façon significative, il y a tout un cheminement, il y a tout un processus. Notamment l'environnement, notamment les ressources qui sont mises à la disposition de ces femmes-là. Et c'est pour cette question-là que nous nous sommes dit, on ne va pas se voiler les faces. Aujourd'hui, les violences basées sur les genres ou les violences sexuelles basées sur les genres sont encore une réalité où, je dirais bien, se portent très bien, notamment dans les services publics, les entreprises, les établissements publics de l'État. Et ce qui est dommage, parce que ce sont ces services ou ces animateurs de ces services qui sont le premier acteurs qui devaient militer pour le changement et la mise en œuvre de toutes ces lois que nous détenons aujourd'hui en RDC en vue d'éradiquer les violences basées sur les genres ou les violences sexuelles dans toutes ses formes.
Mais madame, il y a des intervenants qui ont évoqué le fait que, bien souvent, il y a des auteurs de ces violences, mais qui ne sont pas sanctionnés. Le fait que ces auteurs ne soient pas sanctionnés, surtout en milieu professionnel, fait que c'est une façon de les encourager. Et également, il y a un problème de prise en charge de ces femmes qui sont...
Exactement. C'est la raison pour laquelle nous voulons poursuivre, en fait, la lutte qui a commencé depuis des lustres et surtout apporter notre pierre à l'édifice maintenant que je suis du côté public. Comme vous le savez, c'est une lutte à laquelle on a adhéré depuis bien longtemps. Alors oui, il faut bien dire que les lois ne suffisent pas. Les cadres juridiques ne suffisent pas. Il faut bien qu'il y ait des mécanismes qui accompagnent ces lois-là. C'est pour cela que nous voulons avoir ces genres de cadres d'échange et de plaidoyer pour avoir des actions bien ciblées avec les décideurs et les amener à prendre conscience de la dangerosité de ces problèmes et de prendre des décisions qui s'imposent. Alors, vous avez bien dit qu'il y a non seulement un problème de prise en charge, mais avant d'avoir ces problèmes de prise en charge, il y a un problème de témoignage. Les victimes se rétractent très souvent et dans la plupart des cas. Pourquoi? Parce qu'il y a des situations où on place la victime dans une situation de vulnérabilité et ça crée la peur qu'elle puisse dénoncer parce qu'elle pense qu'elle va perdre son travail. Deuxièmement, elle se dit que si elle dénonce, elle risque d'être victimisée davantage si il n'y a pas un suivi qui va suivre en fait l'acte de dénonciation. Et c'est ça les cas qu'on observe, que ce soit dans la communauté, que ce soit partout. C'est pour cela que nous voulons de façon méthodique proposer des mécanismes concrets qui vont permettre à prendre toute la chaîne, ça veut dire dès la dénonciation, de l'encadrement, de la protection de la victime et surtout de la prise en charge. Parce que si toutes ces actions-là ne se suivent pas, ça ne va pas avoir de l'impact. Parce que d'abord, il y aura toujours des victimes et aussi ces victimes-là n'auront pas le courage de dénoncer parce qu'il y aura des cas, soit elles sont dénoncées et elles se retrouvent encore dans une situation de vulnérabilité parce qu'elles seront ciblées par leurs bourreaux parce qu'il faut signaler aujourd'hui que la plupart des bourreaux ont une position d'autorité sur les victimes. Ça veut dire que la victime se sent dans beaucoup de cas victime davantage et a peur de perdre son travail, vous savez, avec le problème du chômage qui se pose en RDC. Et donc ici, l'essentiel de la démarche, c'est non seulement de mettre des mécanismes, des dénonciations, des protections des victimes et des témoins d'ailleurs, mais aussi de la prise en charge à tous les niveaux. Et ces mécanismes devront bien sûr accompagner tout ce qui existe déjà et tout ce qui est fait afin d'aboutir à des résultats concrets, efficients et performants.
Mais il y a également des intervenants qui ont dit qu'il y a également, entre guillemets, la femme elle-même dans sa façon de se comporter en milieu professionnel qui pousse parfois les hommes à réagir de la sorte, c'est-à-dire c'est peut-être les femmes elles-mêmes qui essaient tant bien que mal de séduire les hommes pour arriver à accéder à certains avantages.
C'est un faux fuyant, je n'ai cessé de le dire, c'est un faux fuyant. La femme, ce n'est pas un objet. Aujourd'hui, nous disons que l'accoutrement ou, je ne sais pas, les comportements ou l'attitude de la femme ne devrait pas être une raison du viol, d'harcèlement ou de violence sexuelle. Il faut faire la part des choses. Nous sommes dans un milieu où il y a des adultes, des gens qui travaillent. Si l'accoutrement de la femme ou la femme elle-même vous attire, il y a des moyens de l'approcher. Il y a des moyens d'avoir son consentement. Mais ce n'est pas question d'utiliser votre position. Ce n'est pas une question d'utiliser votre statut ou d'utiliser du chantage ou de l'harcèlement afin d'obtenir quelques avantages. Donc ça, j'insiste et j'y reviens encore, que ce soit en milieu professionnel, que ce soit dans la communauté, que ce soit dans la maison, dans la famille, c'est un faux fuyant. La femme n'est pas un objet qu'on observe, ce n'est pas une proie, ce n'est pas de la viande, ou ce n'est pas quelque chose qui vous attire. Et ou soit les hommes, ce ne sont pas aussi des animaux qui doivent agir par pulsion. Ça veut dire que c'est parce que la femme s'est comportée comme ça que moi je suis allé vers elle.
Voilà, on va reprendre quelques auditeurs en ligne, mais avant, je m'en vais lire rapidement cette réaction sur la page Facebook de Parole aux auditeurs. C'est celle de Jérémy Mwamba qui nous écrit depuis Lubumbashi. La lutte contre les violences faites aux femmes est une question délicate, nécessitant plus d'attention soutenue de la part des décideurs politiques pour mettre ces dernières à l'abri de toutes les vérités provenant de ceux qui prétendent être forts et tout-puissants dans ce pays où existe la constitution qui protège et érige un garde-fou pour réguler ces registres. Et par ailleurs, nous saluons la volonté du gouvernement, certes, mais pas suffisant. Sans accompagnement des mesures, la femme doit être protégée dans les milieux professionnels et politiques. Elle mérite mieux pour la société congolaise. Voilà, ça c'est Jérémy Mwamba depuis Lubumbashi. On revient au standard pour accorder la parole aux autres auditeurs qui aimeraient bien intervenir. On va aller à Ilebo pour accorder la parole à François Okundji. François Okundji, bonjour.
Bonjour, le grand chevalier de la prime, c'est Marcel. Bonjour à votre invité qui est avec vous dans les studios. Bonjour à tous les auditeurs de la radio au Capi.
Vous avez la parole.
Merci bien. Monsieur Marcel, c'est comme nous l'avons toujours dit dans nos interventions. Les femmes, généralement, sont exposées aux violences sexuelles dans les milieux professionnels par leur faiblesse naturelle. Et les postes inférieurs qu'elles occupent dans plusieurs institutions publiques ou privées. Vous savez qu'en RDC aujourd'hui, le gouvernement est en train de faire un effort de donner une place digne au genre. Vous comprendrez ensemble avec moi que nous sommes dans la province de Maïndombe, où nous avons la gouverneure Itebola, de Tanganyika, nous avons la gouverneure, dans la province de Olomami, nous avons la gouverneure, dans la province de Kassai-Ouiri-Entame, nous avons une dame qui est gouverneure à l'intérim, dans la province de Lualaba, nous avons une femme qui est gouverneure à l'intérim. Vous comprendrez ensemble avec moi que c'est sur 26 provinces et ce n'est pas même la moitié. Alors, ça, généralement, dans nos institutions où nous travaillons, où tout le monde travaille, les femmes sont toujours exposées du fait qu'elles occupent les postes inférieurs où les hommes, par moment, cherchent à les amater ou à les intimider pour avoir un pain, pour avoir une bonne position administrative. Il faut que la femme cède. Vous constaterez même avec les femmes mariées. Sont devant cette faiblesse-là. Si une femme mariée qui n'est pas forte, ne craint pas Dieu, et elle risque de tomber. Nous en avons déjà vu beaucoup de cas comme ça, dans les institutions de l'État, à l'enseignement, à l'EPST, tout ça. Donc, nous condamnons cette façon de faire, mais nous encourageons les femmes déjà qui...
Mais François, c'est ce qu'on reproche aussi à nous les hommes, hein, c'est ce qu'on veut de le dire, la faiblesse de la femme c'est un être faible, c'est ce que la femme ne veut plus entendre, qu'elle est un être faible.
Vous dites, hein?
Vous parlez de la faiblesse de la femme. Je sais que la femme ne veut plus entendre qu'on la considère comme un être faible.
Ah oui, mais les femmes ne veulent pas qu'on puisse leur dire qu'elles sont les êtres faibles. Mais c'est, généralement, elles sont toujours faibles. C'est pourquoi vous comprenez ensemble. Nous sommes pendant la période électorale. Vous constatez même ensemble que dans la quasi-totalité des candidatures, il n'y a pas, la CENI n'a pas atteint même 30% des candidatures féminines. Donc les femmes doivent s'efforcer lorsqu'elles ne veulent pas qu'elles soient taxées des faibles, être faibles. Elles doivent s'efforcer pour occuper des postes décisifs. Je vous renvoie au Libéria. Là où on a connu la présidente de la République, Ellen Johnson. Je reviens en Tanzanie. Nous avons la présidente de la République en Tanzanie. Donc, vous savez que quand une femme occupe une poste prestigieuse ou décisionnelle, les hommes ne peuvent pas les manipuler ou les intimider. Donc, elles doivent faire. Nous les encourageons dans cette dynamique de la révolution moderne, afin qu'elles s'adaptent dans le monde. Mais voilà. Généralement, elles sont faibles.
Voilà,
elles
doivent prendre le courage de... Voilà, ça c'est votre avis, François Okundji. Merci d'avoir appelé depuis Ilebo. Blaise Saïdi, vous êtes à Kisangani. Bonjour, Blaise Saïdi.
Bonjour, cher Marcel. Bonjour à notre invité. Bonjour aux auditeurs de la Radio Capi, ainsi que mes prédécesseurs. Cher Marcel, la RDC se bat à tout moment pour sa valorisation à l'endroit de la femme. Donc, nous devons chercher à savoir bien que la problématique des violences faites à la femme mérite un suivi particulier et de traduire les concernés à la justice. La situation des violences faites à la femme mérite que celles-ci puissent dénoncer, puisque de leur nature, les femmes sont faibles. Je pense même que non, qu'on les veut ou pas, de la nature, les femmes sont toujours faibles. Cher Marcel, il y a quelques mesures pour mettre fin à la violence faite à la femme. Donc, on doit d'abord chercher à... Donc, il y a aussi, donc, ratifier des traités internationaux et régionaux, rendre la justice accessible aux femmes et aux filles, mettre un terme à l'impunité dans le cadre de la vie sexuelle en période de conflit, rassembler, analyser et diffuser les données nationaux, cher Marcel, investir dans l'égalité des sexes et de l'autonomisation, amélioration de l'autonomisation des femmes, donc engagement dans des médias. Cher Marcel, aujourd'hui, vous voyez que non, même notre invité a déjà parlé, donc les femmes s'exposent.
Mais Blaise, aujourd'hui, Blaise Saïd, aujourd'hui, et ça il faut pas vraiment ne pas le reconnaître, il y a des femmes qui aujourd'hui dans tous les secteurs de la vie ont pu s'affirmer, il y a en tout cas celles qui sont aujourd'hui, vous avez suivi, celui qui vous a précédé, qui a parlé, François Okundji, qui a parlé des femmes gouverneurs, qui a parlé des femmes dans tous les secteurs de la vie. Et vous pensez que toutes ces femmes qui sont arrivées à s'imposer dans certains domaines, vous pensez que ces femmes ne le méritent pas?
Non, ces femmes méritaient. C'est-à-dire, c'est la minorité qui est résistante.
Vous pensez que c'est vraiment la minorité et vous aimeriez que ce soit davantage beaucoup de femmes qui puissent se distinguer dans différents secteurs de la vie. Merci, oui. Blaise Saïdi, d'avoir appelé depuis Kisangani. Vous voulez rapidement ajouter quelque chose?
Non. Allô?
Vous voulez rapidement ajouter quelque chose là, rapidement?
Ah, voilà. C'est-à-dire, générer que ceux qui ont encore la possibilité, donc, ils incitent, qu'ils sensibilisent les autres, puisque vous voyez l'accoutrement. Aujourd'hui, l'accoutrement pose problème. Donc, à partir de ça, ça pousse aux hommes de faire de n'importe quoi.
Mais vous avez suivi, Blaise, certainement notre invité va y revenir, vous avez suivi, l'accoutrement, c'est un faux fuyant, d'après notre invité, les hommes ne sont pas quand même, ils ne doivent pas avoir des attitudes bestiales, c'est des hommes qui doivent des personnes réfléchies. En tout cas, ça c'est notre invité qui le dit, on ne peut pas continuer à reprocher, en tout cas, la femme son accoutrement, c'est vrai, qu'il a peut-être une certaine façon de s'habiller qui peuvent peut-être pousser certains hommes à pousser certains actes, mais d'après notre invité, c'est absolument un faux fuyant. Voilà, merci Blaise d'avoir appelé depuis Kisangani. On va prendre Obed et Thomas Huguette depuis Boune et puis on va revenir à notre invité. Obed, vous êtes en ligne depuis Kinshasa.
Oui, bonjour, cher Marcel, bonjour à tout le monde.
Voilà, Obed, allez droit au but, Obed. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont, d'après vous, les pistes de solution dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes? Il y a ceux qui ont déjà parlé des dénonciations, c'est-à-dire on demande à ces femmes qui sont violentées de dénoncer, et également ceux qui estiment qu'il faut absolument sanctionner les auteurs de ces actes. Et vous, qu'est-ce que vous pensez comme autre piste de solution?
Non, ben vous savez, j'ai pu aborder ce sujet par des approches. La toute première approche, ce sera un renforcement des mesures coercitives juridiques, parce qu'aujourd'hui, on a des textes et des lois qui, justement, répriment ce genre de comportements aujourd'hui qui se font observer dans nos administrations et dans nos services publics. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien, beaucoup, voilà. Les maris aujourd'hui ne veulent pas que leurs femmes travaillent dans les administrations, d'autant plus que l'on sait ce qui se passe, il y a des comportements très très immoraux qui ne permettent pas en tout cas à ce que beaucoup de femmes accèdent dans les services publics. Alors la deuxième approche, ce sera une interpellation de tout un chacun, ça veut dire de promouvoir les valeurs humaines, de promouvoir nos valeurs culturelles, et puis de mettre un peu à l'écart une acculturation occidentale, parce qu'aujourd'hui, dans nos communautés, nous voulons nous occidentaliser. Or, le fait de s'occidentaliser ne nous permet pas, en tout cas, d'évoluer et de bon escient partant de nos valeurs qui nous régissent. Parce que même si, aujourd'hui, on peut parler de l'accoutrement, c'est aussi un terme qui mérite, en tout cas, beaucoup d'attention de la part des gouvernants. Parce que, voyez-vous, dans les pays arabes, je n'aimerais pas entrer vraiment en détail sur ça, mais il faut aussi savoir, dans les codes pénales, il y a des infractions d'atteinte à la première.
Donc vous insistez, vous pensez également, Obed, vous pensez également, il faut renforcer, en tout cas les mesures par rapport aux sanctions pour les auteurs et aussi les mesures sécuritaires pour les victimes de ces violences. Merci, Obed, d'avoir appelé depuis Kinshasa. Thomas Ouguen, vous êtes à Bounia. Bonjour Thomas.
Bonjour Monsieur le journaliste et bonjour à l'invité.
On vous écoute, vous avez la parole.
Monsieur le journaliste, malgré tant d'efforts du gouvernement et ses partenaires à vue d'éradiquer ce fléau à l'égard de la femme dans les établissements publics, monsieur le journaliste, comme piste de solution, comme je n'ai pas assez de temps, aux femmes de dénoncer ces pratiques-là et surtout de prendre conscience, monsieur le journaliste, et il ne faut pas se laisser faire, quelles que soient les situations de la vie. Mais aussi au gouvernement, également, de s'impliquer à ce sens-là du côté de ces vulnérables qui sont les femmes. Également, la justice doit correctement sanctionner toutes ces personnes qui sont impliquées de près ou de loin dans des pratiques pareilles. Parce que, monsieur le journaliste, je suis à l'université ici, on n'arrive pas à comprendre. Il y a des étudiants qui arrivent à réussir, mais on ne comprend pas. Par quel bateau magique qui arrive à réussir, d'autant plus qu'ils sont irréguliers au cours, ils n'étudient même pas, mais par un bateau magique là, on voit les étudiants monter la classe supérieure. Je pense ça aussi, la justice doit sanctionner surtout les coupables de ces pratiques là pour donner des leçons aux autres.
C'est peut-être ça ce que je veux dire. Vous avez parlé de la dénonciation, c'est bien, c'est que d'ailleurs on encourage toutes les femmes à le faire lorsqu'elles sont victimes de violences, qui ce soit en milieu professionnel ou ailleurs. Mais pourquoi, d'après vous, ces femmes ont souvent du mal à dénoncer? Certaines femmes en tout cas.
Parce que, comme Maître Patrick l'a dit, quels sont les mécanismes? Peut-être elles peuvent dénoncer ça, mais par après, peut-être on peut les chasser au bourreau. Comment elles peuvent facilement dénoncer alors qu'elles ne sont pas sécurisées? L'État doit sécuriser ces femmes-là pour les mettre dans de bonnes conditions. Là, elles peuvent facilement les dénoncer. Mais dénoncer aussi, ça ne suffit pas. Mais les sanctions, surtout, la justice doit jouer son rôle de sanctionner ces coupables. On peut dénoncer, mais si l'État n'arrive pas à sanctionner, vous voyez que ça peut poser un problème.
Voilà, merci Thomas Ouguen d'avoir appelé depuis Bounia. Madame Pascaline Samounda, comment réagissez vous par rapport aux interventions des uns des autres?
Merci beaucoup. Je sais que la plupart, ils ont donné des très bonnes pistes de recommandations et je ne vais pas y revenir. Mais je reviens encore une fois à cette histoire des femmes être faibles, je ne sais pas, de quel aspect, est-ce que c'est l'aspect biblique, est-ce que c'est l'aspect physique, c'est, il faut pas toujours lancer des choses comme ça pour s'aimer la confusion dans la tête des gens. Quand on doit dire la femme est un être faible, il faut bien justifier ce qu'on dit. Est-ce que c'est sur le plan physique? Ici, moi, je vous dis, je suis sociologue de formation académique. Et donc, quand je parle des questions de femmes, je les parle comme des faits sociaux. Je ne les parle pas comme femmes ou même comme expertes sur les questions du genre et des chefs de femmes. C'est pour ça que j'essaie d'aller au-delà de la compréhension de ce qui... essayer de se dire, mais aussi essayer de me mettre aussi en même temps au niveau de ceux qui parlent, parce que nous sommes tous les produits de notre socialisation et les gens parlent souvent en fonction de ce qu'ils vivent dans leur environnement, parce que c'est ce que nous vivons dans notre environnement qui marque notre éducation. Ici, je voudrais d'abord informer aux auditeurs ou à tous ceux-là qui continuent avec ces jargons-là des femmes sexe faible ou je sais pas quoi, qui comprennent que chaque enfant né à la naissance avec 10% de la capacité de son cerveau. Les 90%, qu'ils soient filles ou garçons, les 90% on les acquiert dans notre société. C'est ça l'éducation. Mais la manière dont on nous éduque, nous en Afrique ou même dans les autres continents, ici je voudrais d'ailleurs insister cette histoire de penser qu'il y a des choses qui nous sont imposées par les étrangers. Moi je vais insister ici que l'Afrique est en retard et l'Afrique a ses buts sur tout le plan. Ce n'est pas que le plan des droits des femmes. Si les plans politiques, si les plans juridiques, si les plans économiques, nous subissons par le fait que nous sommes en retard. Nous subissons par le fait que nous avons été colonisés par les personnes qui sont venues d'ailleurs. Ça veut dire qu'il ne faut pas ramener cette histoire de dire que non, les valeurs, les ceci, comme s'il n'y a que les seuls secteurs des femmes où nous copions les choses de l'extérieur. Alors, pour ce qui concerne la femme être faible, je viens ici de dire qu'on arrête de répéter chaque fois cette histoire parce que je ne sais pas sur quel aspect il s'appuie. Mais deuxièmement, quand quelqu'un est faible, ça veut dire qu'on doit la protéger. On doit la protéger alors. Mais pourquoi est-ce que les hommes se comportent comme des prédateurs par rapport à ceux qui sont faibles? On dit que ceux qui sont forts soutiennent ceux qui sont faibles. Mais si c'était ça le cas, donc, on ne devait pas avoir des problèmes de violence parce que les hommes seraient conscients de la faiblesse des femmes et devraient les protéger. Donc, ce n'est aucunement une raison, encore une fois, de dire que c'est parce que la femme est faible. Ici, le problème, c'est les hommes qui se comportent en prédateur. Parce que quelqu'un qui est fort, il doit être conscient que moi, je dois protéger celui qui est faible. Et ça, c'est même biblique. Donc, on doit balayer cette histoire pour les histoires d'être faible. Mais aussi, il y a la question d'accoutrement qui est revenue. Alors, je répète encore une fois, si l'accoutrement était une raison de violence basée sur les genres de violence sexuelle, en tout cas, si le long de rue, on allait commencer à assister à des scènes de violence sexuelle. Mais pourquoi ça ne se passe pas? Pourquoi les gens ne se jettent pas sur les folles qui sont mal habillées? Pourquoi dans les champs, comme j'ai toujours dit, les mamans qui sont là-bas ne sont pas tout le temps violées? Ici, si je parle même en dehors du contexte de guerre, parce qu'on sait que les femmes sont beaucoup victimes dans ces contextes-là. Donc, ça n'a jamais été une raison. Pourquoi est-ce que les hommes, les papas, ne violent pas leurs enfants? Parce que nous sommes dans nos maisons et nous voyons parfois les enfants qui ne sont pas... Qui sont dans la maison où ils sont habillés et les parties du corps restent visibles. Pourquoi les frères et les sœurs ne se violent pas? Je parle ici dans les cas généraux parce qu'il y a aussi des cas d'inceste. Oui. Donc c'est une fois encore pour montrer que ça n'a jamais été une raison. En fait, c'est quelque chose qui est dans la tête. C'est une prédisposition pour certains hommes, parce que je dis
c'est pas
très
tous
bien,
aussi. Ce n'est pour pas certains tous, hommes, c'est pas tous les hommes,
pas
ça
tous,
c'est vrai.
Et ça ne devait pas être généralisé, et ça ne devait même pas être défendu. Ça ne devait pas être défendu comme une raison, parce que encore une fois ici, on parle de victimes, alors on ne doit pas encore demander aux victimes de se comporter comme ça, de se faire ceci. Non, que les hommes cessent de se comporter comme des prédateurs, ça aidera les femmes. Et aussi par rapport à cette histoire d'occidentaliser, j'ai parlé, c'est Obed qui a évoqué ça, mais vous en faites pas, on a subi, on continuera à subir par le retard qu'on a eu par rapport à d'autres continents. Mais je vous informe très bien que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Europe, les femmes sont passées par où nous sommes en train de passer aujourd'hui. Et d'ailleurs, là-bas, c'était encore pire. Et je peux vous donner des exemples clairs, comme je vous dis très bien, que même quand on parle de l'émancipation, elles ont milité pour qu'aujourd'hui, il y ait l'émancipation de la femme. Même en Europe, même aux États-Unis, les femmes n'avaient pas le droit même de voter.
C'est justement,
les femmes n'avaient pas le droit de travailler.
Il y a cette journée de
exactement.
Des droits des
donc,
femmes.
Donc ce
parce
n'est
que,
pas voilà. étranger. Même aujourd'hui, les femmes sont violentées partout. C'est la réalité qui est partout. Là où il y a les hommes et les femmes, les violences sont inhérentes à la nature de l'homme. Donc arrêtez de limiter dans l'espace géographique cette histoire des viols ou qui est occidentalisée ou les valeurs. Les valeurs sont subjectives et doivent être universelles. Et chacun, on doit respecter. C'est la loi qui s'impose à tous. Mais voilà. Les valeurs peuvent être différentes quand on est dans un milieu ou dans un autre.
Rapidement, il y a un autre auditeur qui veut intervenir, puis on va conclure. Il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter?
Oui, oui, ce que j'aimerais ajouter ici, c'est encore dire une fois que c'est l'abondance même des réactions de la matière montre la gravité du problème, mais montre aussi la prise de conscience des hommes, parce que très souvent, c'était des hommes qui étaient très résistants, mais voir que la plupart même d'auditeurs et de ceux qui réagissent sont des hommes, moi, ça me réjouit de voir que nous sommes en train d'avancer. Et ce n'est même pas compliqué. Moi, je ne pense pas qu'il faudra vraiment faire intervenir beaucoup de choses, mais c'est juste une question de prise de conscience, parce que les violences sexuelles ou basées sur les genres, c'est une arme à destruction massive et ça retarde le développement de la RDC et sur tout le plan. Parce que quand
on revient à vous, hein, les temps de port rapidement du top, on va conclure. Georges Kilangalanga, bonjour, vous voulez bien intervenir, vous êtes en ligne, je pense bien, depuis Kisangani. Bonjour Georges.
Bonjour Monsieur Marcel, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi et à l'invité.
Voilà, une minute Georges, qu'est-ce que vous avez à ajouter par rapport à tous ceux qui vous ont précédemment dit? Ils ont beaucoup insisté sur la dénonciation et également sur des sanctions vis-à-vis des auteurs de ces actes.
Oui, Monsieur Marcel, par rapport aux sanctions, je dois dire que le gouvernement congolais, l'actuel gouvernement pour être précis, ne fait pas assez. Alors, on attend quand il y a des jours d'activisme comme ça, on fait des discours comme d'habitude. Vous avez même entendu notre invité parler que le président de la République avait souhaité qu'une femme puisse les succéder. C'est ça. Le gouvernement ne fait presque absolument rien, parce qu'on peut prendre même dans le contexte de la guerre à l'Est. On a vu les gens qui ont violé les femmes, qui ont tué, ils ont été promis dans l'armée et tout. Donc le gouvernement congolais ne fait pas assez pour lutter contre les violences faites aux femmes. Je pense qu'on est toujours dans les discours comme d'habitude, mais rien ne s'est fait.
Voilà, merci.
Le gouvernement doit prendre des mesures, notamment
oui.
en termes.
Il faut renforcer les mesures.
Le gouvernement.
Ouais. On a plus assez de temps. Désolé, Georges, on n'a plus assez de temps. Il faut qu'on puisse conclure avec notre invité, en tout cas. Merci d'avoir appelé Georges Kilangalanga depuis Kisangani. Madame, on va conclure avec vous rapidement. Il y a cette journée qui va se passer le jeudi, je pense bien, avec la Confédération syndicale du Congo et où il y aura une matinée de plaidoyer. Rapidement, un mot par rapport à cette journée.
Oui, cette journée vise, comme j'avais dit au départ, les femmes des secteurs publics, ça veut dire les femmes des entreprises publiques, des établissements publics, des cabinets politiques. La thématique, elle est vaste, mais les parties prenantes ne sont pas les mêmes. La Confédération syndicale du Congo a son sein, les femmes des secteurs informels, des entreprises privées, mais on a voulu y aller par paliers. C'est pour avoir des résultats plus efficaces. Donc on va avoir autour des 120 femmes qui vont venir représentant les établissements et les entreprises et tous les autres services publics de l'État, mais aussi on va avoir quelques personnalités. L'idée, c'est d'aboutir à avoir un document des plaidoyers qu'on va déposer au niveau du ministère des portefeuille et d'autres ministères qui ont l'obligation de mettre en œuvre ces mécanismes de protection. Il y a aussi des partenaires tels que l'ONU Femmes, l'OIT, l'UNFPA et d'autres qui vont prendre part, notamment pour parler du travail qu'ils sont en train de faire, parce que tout le monde est conscient aujourd'hui que nous ne pouvons pas évoluer, nous ne pouvons pas développer ces pays tant que nous sommes en train de nous faire du mal avec les violences de toute nature. Et aussi, les violences ne sont pas que les femmes, c'est
voilà.
les hommes.
Merci beaucoup. Madame Pascal Isamunda. Jean-Pierre, vous êtes bientôt général du Fonds national de l'habitat. Merci d'avoir été des nôtres.
Merci.
Fin de ce numéro des Paroles aux Étoiles. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Nous prenons rendez-vous pour un autre numéro de ce magazine demain. Bonne suite de programme d'ici là. Au revoir à toutes et à tous.